je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Dans le 10e arrondissement de la capitale, au cœur d'un quartier à forte population kurde, dans les locaux de l'Association culturelle des travailleurs émigrés de Turquie, a eu lieu une attaque fasciste. Ce lieu accueillait une soirée cinéma organisée par le mouvement Young Struggle, une organisation de jeunesse internationaliste et antifasciste. Le film projeté par ce collectif était Z, du réalisateur Costa Gavras, sorti en 1969, et qui dénonçait la montée de la terreur fasciste en Grèce avec le soutien de la police et de l'armée. Une trentaine de néo-nazis, dont certains portaient des casques de moto, ont donc attaqué cette soirée, ont tabassé les participants et poignardé un syndicaliste de la CGT. Deux personnes ont été hospitalisées, mais aujourd'hui, elles sont hors de danger. Le chef de meute néo-nazi a donné calmement le signal de départ, puis le groupe a crié « Paris est nazi, Lyon est nazi aussi ». Un autocollant laissé sur place ressemble à une revendication « Cop veille », avec un dessin de bulldog. La signature d'un groupe de hooligans d'extrême droite parisien. Le mouvement Young Struggle dénonce une attaque visant clairement à empêcher l'organisation des travailleurs émigrés et la lutte de la jeunesse anticapitaliste et antifasciste organisée. Une manifestation spontanée a eu lieu le dimanche soir dans les rues de Paris, juste après les faits. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris. Le mode opératoire fait penser à de précédentes agressions commises à Lyon ces dernières années. Des antifascistes avaient été poignardés en pleine rue par des militants néo-nazis dans le but évident de tuer et de terroriser. Cette attaque d'extrême droite intervient alors que la justice a définitivement annulé la procédure visant un commando néo-nazi qui avait préparé une attaque contre les supporters marocains fin 2022. Les faits étaient pourtant avérés et reconnus. Le groupe avait été arrêté, lourdement armé, et était prêt à tuer des personnes maghrébines au cœur de Paris. Parmi les personnes arrêtées à l'époque, un certain Marc Coqueret-Valmenier, néo-nazi issu d'une famille de l'aristocratie, aujourd'hui embauché par Bolloré comme homme de main. La justice vient de décréter d'un vice de forme et donc abandonne toute poursuite parce que la police n'avait pas correctement placé les armes saisies sous scellés. Un tel niveau d'incompétence relève de la complicité organisée, surtout dans un contexte hyper répressif et implacable à l'égard des mouvements sociaux antiracistes et écologistes. Cette agression criminelle contre l'opposition turque et le mouvement kurde fait également écho à l'attentat d'extrême droite commise le 23 décembre 2022 dans le même quartier. Un criminel raciste de 69 ans, déjà condamné pour une attaque armée contre les exilés, ouvrait le feu sur le centre culturel kurde de Paris et plusieurs commerces environnants appartenant à la communauté. Trois personnes était assassiné. Le mouvement turc avait déjà pointé l'incurie des autorités françaises dans cette affaire. Cette attaque pourrait constituer une riposte de la part des fascistes du GUD suite à leur impossibilité de défiler, comme tous les ans, début février, dans le 20e arrondissement de Paris pour commémorer la mort de Robert Brasillach, collaborationniste antisémite, fusillé à la Libération et enterré au cimetière de Charonne. Le GUD est une organisation raciste, xénophobe et ultra-violente, connue pour des faits de passage à tabac racistes, de torture, voire de meurtre, comme récemment en mars 2022 pour l'assassinat en plein Paris du rugbyman argentin Federico Martin Aranzburu. L'heure est grave, les fascistes et racistes sont installés dans la rue et à l'Assemblée. Aujourd'hui, le RN, qui compte en ses rangs des membres du GUD, est le parti le plus nombreux de l'Assemblée nationale. Les militants d'extrême droite sont en confiance. À Paris, Reconquête et d'autres groupes racistes osent ainsi venir alpaguer et agresser des mineurs du collectif des jeunes de Belleville qui luttent et occupent la Gaîté Lyrique. Loi islamophobe, violence policière partout en France et dans le 20e, loi Darmanin, circulaire Retailleau et tractation avec le RN. Le gouvernement en place collabore activement avec l'extrême droite. Il est donc de notre responsabilité de nous organiser pour la faire reculer nous-mêmes et pour ne surtout pas lui laisser la rue. De nombreux collectifs appelaient à une manifestation pour empêcher ce défilé. Vous allez pouvoir entendre une série d'interviews qui ont été réalisées lors de la manifestation du 22 février à Paris.
À nous, à la rue, les patrons !
Elle est à nous !
À qui ?
À nous !
À qui ?
À nous !
À qui ? À qui ? À qui ?
À nous, à nous, à nous !
Donc nous sommes le 17 février 2025 et hier, en début de soirée, au centre kurde de Paris, lors d'un film antifasciste diffusé au centre kurde, il y a eu une attaque de la part de fascistes et un syndicaliste CGT a été blessé. Et en réaction, un premier rassemblement avait eu lieu dans la soirée et un second ce soir donc a eu lieu. On est plusieurs centaines de personnes sur le terre-plein central de la gare de l'Est. Donc on va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Bah, je m'appelle Miloš, je suis membre de l'organisation Young Struggle. C'est une organisation de jeunes internationalistes et socialistes révolutionnaires. Et hier, on a organisé une projection d'un film. C'était part de notre campagne antifasciste au niveau européen. Pendant cette diffusion du film, la projection du film, on a été attaqué par les fascistes. 23 fascistes étaient devant l'association. On a entendu un bruit en bas dans la rue. Et moi et un camarade, on est descendu pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a pensé que quelqu'un peut-être a un problème et on peut aider. On est descendu. Moi j'étais en premier et le camarade est venu derrière moi. Moi j'ai ouvert la porte et j'ai vu les fascistes. Ils ont crié, ils ont dit quelque chose comme « Ah, vous êtes là !» Et ils ont essayé d'ouvrir la porte parce que c'était ouvert et on a essayé de fermer. Moi je suis allé en haut pour fermer l'association et l'autre camarade, il a essayé de fermer la porte mais ils ont tapé dans son visage et après il est tombé ici et ils ont attaqué encore plusieurs fois avec...
Donc ils ont réussi à rentrer près la porte et ils l'ont attaqué au sol, oui. Dans la petite cour, sol qui est pavé quand même.
Exactement. Le temps de l'attaque, c'était 30 secondes.
Ah, d'accord.
Ils ont entré, attaqué, ils sont partis. Il y a une vidéo...
Ils n'ont même pas voulu remonter là-haut à l'actite.
Non, il y avait une personne qui était en train d'entrer, mais il est retourné, il n'est pas monté.
D'accord, c'était une attaque éclair juste pour...
Juste pour faire mal à des personnes, des militantes, et pour partir après. Dans la rue, ils ont crié « Paris est nazi » et « Lyon est nazi ».
Donc c'est une montée de c'est une montée nationale de fascistes. Il y a eu des Lyonnais et des Parisiens.
Ouais.
Est-ce que tu connais, est-ce que vous connaissez le groupe en question qui est venu ici, le groupe de fascistes qui est venu?
Bah, il y avait des stickers avant.
Ouais.
Il y avait un sticker avec un croix et le cercle.
Donc c'est une croix celtique.
Oui. C'est très utilisé de le gude.
Donc c'est potentiellement des gudards.
Potentiellement c'est gude et aussi Boulogne.
Le cop de Boulogne.
C'est les deux groupes, on pense, qu'ils ont attaqué. On ne sait pas. Il y avait, dans la vidéo qui était prise de en haut, on peut voir qu'il y a un fasciste qui est en train de filmer l'attaque. Donc peut-être, dans quelques pages dans l'Internet, ils vont publier un vidéo
de l'attaque. Il est sûrement sur la page Telegram de West Caswell. Quoi. Mais comment va le camarade qui a été blessé?
Il va bien. Il a participé au rassemblement. Il était présent. Il est... motivé. On a récupéré de l'hôpital, il a fait des blagues et tout ça. Donc
il n'a pas passé la nuit à l'hôpital?
Non. Le soir, il pouvait sortir, mais il était vraiment blessé. On ne sait pas si avec un couteau ou avec une bouteille. Un de les deux, ça doit être.
Comment ils ont su qu'il y avait la diffusion d'un film antifasciste ici?
Non, on a publié sur les réseaux sociaux. On a fait un appel que les jeunes qui sont intéressés venaient à l'actrice. Et jusqu'à la semaine avant, ils ont réussi de faire leur commémoration dans le 20e d'un ancien collaborateur, j'ai oublié le nom, mais il y avait beaucoup de présence des Antifa la semaine dernière, le fin de semaine dernière. Et je crois qu'ils étaient en colère parce qu'ils n'ont pas réussi de faire leur...
C'est un acte de vengeance par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu faire leur petite cérémonie tranquille dans le 20e.
Potentiellement, oui.
Est-ce que tu peux nous décrire ton association Young Struggle? Parce qu'elle n'est pas très connue ici à Paris.
Young Struggle, c'est une organisation européenne. Donc on est actif dans 5 pays d'Europe. On est le plus grand, on est en Allemagne. On est présent dans, je sais pas, 13 villes, je pense.
J'ai entendu Allemagne, Angleterre, France.
La Suisse et l'Autriche. On était fondés des enfants de familles politiques kurdes et turques qui ont voulu créer une organisation, pas seulement pour les Kurdes et Turcs, mais pour tout le monde, de s'unir sous le slogan de socialisme, la révolution et l'avenir, en vrai, et la révolution des femmes.
La révolution communiste.
Et la révolution communiste. L'effet qui est un peu spécial de notre organisation est le lien avec le Kurdistan. Donc on est très actif en soutien avec le mouvement du peuple kurde et la résistance du peuple kurde.
Le PKK notamment en Turquie?
Oui, bien sûr aussi, mais il y a aussi des autres partis.
Les YPG.
Par exemple, il y a aussi des partis communistes qui sont présents là-bas, par exemple, qui sont des différentes positions, mais qui participent parce qu'ils disent que l'autodétermination d'un peuple et d'une nation est nécessaire. Donc même s'ils ne sont pas complètement, et nous, on n'est pas complètement d'accord avec toutes les positions de, par exemple, le PKK, on est en soutien, on est très fort des alliés, mais on a des différences.
L'autodétermination d'un peuple est un fait progressiste,
oui.
Et c'est ce qu'il faut défendre d'abord.
Oui.
Ok.
Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais en colère et déterminés. Nous continuerons à nous organiser, nous deviendrons plus forts et plus forts, et nous riposterons. En tant qu'organisation de jeunes femmes, nous voyons les dangers que représente la montée du fascisme partout en Europe, en France et ici même à Paris. Ils veulent nous ramener dans nos cuisines. Ils veulent faire de nous leur propriété. Ils veulent reprendre les droits pour lesquels nos sœurs se sont battues. Ils attaquent et déportent les femmes immigrées. Ils nous dictent comment nous habiller et comment vivre. En tant que jeune femme, face à cette violence, nous nous devons de résister. La solidarité entre femmes est une de nos armes contre ce système patriarcal et capitaliste. Même si la police a arrêté quelques fascistes, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur l'État bourgeois dans cette lutte. Ce dernier est fondé sur un système capitaliste qui préfère le profit à la dignité humaine et qui a, à maintes reprises, permis aux fascistes de s'organiser. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que subir. Nous avons choisi de combattre les fascistes, car c'est seulement collectivement et en luttant de manière organisée que nous pourrons résister et vaincre. Face aux images sur les réseaux sociaux et à la montée du fascisme, c'est possible d'avoir peur, de se sentir démunie et impuissante. Mais ne nous laissons pas enfermés dans une situation de passivité. Ne laissons pas cet individualisme sans perspective complètement nous immobiliser. Dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Partout où il y a des injustices, il y a des femmes qui se soulèvent et qui combattent. Au Rojava, les femmes combattantes, par les armes, font face à l'armée nationale syrienne. Elles défendent avec toute leur force la révolution des femmes et elles doivent nous inspirer dans la lutte que nous menons ici en Europe. D'Amérique latine en Afrique, du Moyen-Orient en Europe, levons-nous, résistons et combattons les fascistes. Nous, en tant que Zora, appelons toutes les jeunes femmes à nous rejoindre et à s'organiser pour former un front de jeunes femmes antifascistes, fortes et unies. Jin, Jihan, Azadi. Jin, Jihan, Azadi.
Bonjour et merci aux organisateurs de nous avoir permis de prendre la parole. Les militants du Parti des Travailleurs de Paris sont présents et voudraient apporter plusieurs messages pour l'unité ouvrière et démocratique. D'abord, l'unité ouvrière et démocratique en soutien aux jeunes militants agressés hier lâchement par les groupes d'extrême droite. Unité ouvrière et démocratique contre le gouvernement actuel, le gouvernement Macron-Bayrou, porteur de tous les discours les plus réactionnaires qui font le lit de l'extrême droite. Unité ouvrière et démocratique pour que tous les rangs, ici il y a des militants communistes, il y a des militants révolutionnaires, il y a des militants insoumis, il y a des militants socialistes, il y a des militants anarchistes, il y a des syndicalistes, il y a des associatifs, il y a aussi des élus, il y a des militants de toutes tendances du mouvement ouvrier démocratique. Derrière chaque agression fasciste, il y a l'ombre du capitaliste, il y a l'ombre de la division qui veut peser sur le mouvement ouvrier démocratique. Derrière chaque antifasciste, il devrait y avoir un militant, une militante anticapitaliste, résolu à combattre contre le gouvernement Bayrou, Macron, qui fraye la voie de l'extrême droite. Il y a 91 ans, presque jour pour jour, le 6 février 1934, des groupes d'extrême droite avaient décidé d'organiser une sorte de coup d'État contre le Parlement en France. C'était il y a 91 ans. Il y avait eu 19 morts. Comment avaient réagi les travailleurs il y a 91 ans? Ils étaient allés voir leur syndicat, ils étaient allés voir leur parti. Et quand ils étaient allés les voir, bien souvent ces partis étaient très divisés, très très divisés. Et on leur disait non, mais les organisations d'à côté ont fait ceci et nous ne sommes pas d'accord. Et les autres disaient mais ces organisations n'ont pas fait ceci et nous ne sommes pas d'accord. Les travailleurs ont dit l'heure est trop grave, il faut l'unité du mouvement ouvrier démocratique. Et dans les jours qui ont suivi, le 9 février 1934, puis le 12 février 1934, des centaines de milliers d'ouvriers et de jeunes sont descendus dans la rue. Les organisations politiques, socialistes d'un côté, communistes de l'autre, appelaient à des manifestations séparées. Sur le cours de Vincennes, le 12 février 1934, il y avait des centaines de milliers de manifestants. Et au cortège séparé,
les travailleurs ont répondu « Unité, unité ». Et les deux cortèges se sont fusionnés, ils se sont associés au cri de « Unité, unité ». Cette date du 12 février 1934 a marqué le point de départ de l'essor de l'unité ouvrière qui allait donner ensuite naissance à la grève générale de 1936. Camarades, aujourd'hui, les mêmes problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés, c'est la division du mouvement ouvrier. Nous sommes partisans au Parti des travailleurs de l'unité ouvrière en bas sur les revendications, l'unité ouvrière face au gouvernement. Alors oui, la classe ouvrière imposera son unité d'une manière ou d'une autre, par la grève, par les occupations, par les pétitions. Ça n'est pas à l'Assemblée nationale que l'unité s'opérera, à part peut-être avec Macron. L'unité, elle s'opérera dans la rue, dans les manifestations, dans la grève, et elle mettra à bas le fascisme, le système capitaliste et le gouvernement Macron-Bayrou.
Oui, bonsoir pour le collectif unitaire qui réunit plus de 60 organisations et associations féministes. C'était important d'être là pour dire notre solidarité contre les fascistes, notamment aux amis du SKB. Parce que depuis plusieurs années, on prépare le 8 mars dans les locaux. On a préparé pendant au moins 2-3 ans dans les locaux de l'ACTIT les pancartes. On préparait la manifestation du féministe du 8 mars pour les droits des femmes, non seulement ici, mais dans le monde entier. Et dans le cadre unitaire de mobilisation féministe, pour nous, non seulement c'est important d'affirmer notre solidarité à toutes les copines, migrantes, réfugiées politiques, à qui bientôt on va faire la chasse ici, c'est insupportable. Et le 8 mars, il faut qu'on soit toutes et tous nombreuses, nombreux, parce que c'est un 8 mars marqué, bien sûr en solidarité internationale avec toutes les femmes qui luttent pour leur autonomie, pour le droit, contre les violences. Mais c'est aussi pour dénoncer la politique de Macron aujourd'hui, les propos de Retailleau, insupportables, qui défend un groupe féministe d'extrême droite, Némésis, qui se retrouve dans leurs propos. Et maintenant, ces groupes d'extrême droite, féministes, soi-disant féministes, hein, bien sûr pas féministes, elles essayent de venir perturber nos manifestations. Donc, on veut être nombreux et nombreux avec nos amis qui sont vraiment dans le collimateur des fachos. Et c'est important, y compris pour la future loi Retailleau-Darmanin sur l'immigration, de dénoncer tout ça le 8 mars, et bien sûr pas seulement le 8 mars. Donc toutes et tous ensemble, espérons et on sera nombreux et nombreux pour les droits des femmes et contre l'extrême droite.
Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, Paris, Paris, Antifa, siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti.
Je suis maintenant au cortège du côté de la CGT. De la CGT Entreprise, et je vais tenter d'interviewer les camarades. Dites-moi, bonjour, je travaille à Fréquence Paris Pluriel et c'est pour vous interviewer pour déjà prendre des nouvelles du camarade de la CGT qui a été blessé.
Il est sorti de l'hôpital lundi matin, donc ça, il se rétablit gentiment.
Non, bien sûr, malheureusement, il n'est pas là, mais pourquoi la CGT nationale n'a pas pris sa défense? On n'a pas du tout entendu la CGT sur ce sujet.
En fait, c'est un camarade de la CGT qui a été blessé, mais il n'était pas là en tant que militant CGT.
Oui, mais quand bien même, c'était une attaque fasciste.
Oui, c'est pour ça que nous, en tant que CGTistes, on est là parce qu'un camarade a été attaqué et on est contre le fascisme. Mais même s'il n'y a pas l'appel officiel de nous, la CGT, on est tous indépendants, on vient tous... manifester donc contre les fachos et en soutien aux camarades attaqués, quoi. S'il soit, il est de la CGT, mais il serait d'un autre syndicat, ça serait pareil, on serait là pour eux.
Mais en dehors de ça, pourquoi dans une manif antifa, pourquoi la CGT n'est pas là dans une manif antifa?
Ça, après, faut demander à Sophie Binet.
Ou même la CGT Paris. Merci.
Thank you.
coup je suis avec une camarade de la FSU. Donc déjà, pourquoi c'était important pour toi d'être ici? Et ensuite, pourquoi malheureusement tous les syndicats ne sont pas présents? La FSU, on a un petit nombre.
Ouais, bah la FSU, tu sais, c'est le syndicat de la fonction publique. On est plusieurs à être en vacances, mais on est là. La FSU Île-de-France a appelé à la manif. Bah, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui parce que la lutte contre le fascisme, c'est l'une des luttes les plus importantes actuellement. Parce que vous voyez bien que notre gouvernement met en œuvre, fait voter des lois fascistes, fait discuter des lois fascistes au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les médias, Macron va les rencontrer, Trump, enfin je veux dire, tout le langage, les mesures, alors toute la loi, là, les propositions Retailleau, les mesures contre les personnes sans papier, dans les écoles, c'est pareil, des politiques réactionnaires.
D'ailleurs, toi, tu es dans quelle branche de la fonction publique?
Moi, je suis à l'éducation nationale.
Justement, le fait que maintenant, les OQTF seront plus faciles à délivrer, ouais. Et plus compliqués à casser, qu'est-ce que ça provoque déjà dans ton secteur?
Bah, dans notre secteur, ça met en danger plusieurs de nos élèves, au niveau des lycées notamment, mais aussi au niveau des écoles élémentaires. Où on se mobilise dès qu'il y a une OQTF sur une famille, on se mobilise avec les parents d'élèves, les enseignantes, enseignants, RESF, toutes les associations. On agit par réseau et on va très très vite au rapport de force devant la préfecture, auprès de l'administration, pour que nos élèves, leurs familles puissent poursuivre leurs études. Ils étudient ici, ils vivent ici, ils travaillent ici, ils restent ici, quoi. Hier d'ailleurs dans le Val-de-Marne, on était mobilisés devant la préfecture parce qu'on a des camarades travailleurs de Chronopost.
D'ailleurs, quelles sont les nouvelles pour Chrono?
Eh ben, elles sont pas très bonnes parce que il y a plusieurs camarades qui ont reçu des OQTF. Donc c'est le préfet qui les a envoyés le matin même où il y avait la manif la semaine dernière. Ils les ont reçus en audience l'après-midi, il n'en a même pas parlé. Et donc hier, on s'est mobilisé, c'était assez grand devant la préfecture pour justement dire que la lutte continue, que ces OQTF ne doivent pas être mises en œuvre.
Et tu peux nous faire un résumé de cette rencontre de la délégation?
Mais en gros, ce qui a été dit lors de l'audience la semaine dernière, c'est que il n'y a rien qui allait bouger sur les demandes de régularisation des camarades, des travailleuses et travailleurs, enfin des travailleurs pour le coup. Donc la préfecture protège le patron voyou, Chronopost.
C'est l'État français.
Ouais, évidemment. L'esclavagisme moderne, hein, les camarades parlent bien d'esclavagisme moderne, organisé, de la précarité de ces travailleurs qui continuent la lutte. Ça fait 3 ans qu'ils luttent, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et ils vont continuer parce que l'OQTF, l'OQTF, ça ne devrait pas être pour eux, ça devrait être pour les grands patrons, les Bolloré, les Bernard Arnault, c'est-à-dire c'est eux qui dégagent et ils dégagent de partout, là où ils sont et où ils exploitent les gens.
Donc on vient d'arriver à la Nation, il y a d'autres prises de parole, on va prendre les prises de parole, mais...
Plus jamais, nous serons toujours contre.
C'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse.
Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes.
Jeunesse immigrée,
solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. La jeunesse en mer. Merci.
Merci ce soir. Ce soir, vous êtes.
fois que le gros Le Pen là, il se baladerait dans la France, je vais vous voir gueuler comme ce soir, ok? La jeunesse du monde emmerde le Front National! 1, 2, 3, 4,
la jeunesse emmerde le Front National!
Donc toujours à Nation là, et je suis avec un camarade du collectif
Urgence Palestine.
Urgence Palestine, ok. Moi je pensais que tu étais à Georges Ibrahim Abdallah, mais c'est pareil. Donc du coup, pourquoi c'était important d'être là?
Alors pour nous c'était important d'être là parce que en fait on subit, nous Palestiniens, les mouvements antifa en France, on fait face au même ennemi. Un ennemi qui pendant toute une année, 15 mois plus, ont débridé un discours génocidaire qui permet de proférer des actions comme il y en a eu cette semaine contre des camarades antifa ici à Paris.
Est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation là-bas? On a vu alors sur les réseaux, puisque les médias n'en parlent absolument pas, ils ont préféré parler du cas de Shira, la mère du petit Fir, qui a été son corps a été mélangé avec des corps de victimes palestiniennes. Ils ont beaucoup axé sur ça, alors que dans le même temps, tu avais le Shin Bet, c'est-à-dire les services secrets intérieurs, qui est déversé sur Gaza dévasté, un tract disant « Collaborer, nous vous aiderons à partir » ou « Restez sur place et on vous tuera ». Disant clairement que de toute façon, le plan Trump se fera. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce qui se passe à Gaza?
J'ai pas plus d'informations que ce qu'on voit spécialement sur les réseaux. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si une résistance a tenu pendant 15 mois face à des bombes, face à des tonnes de bombes qui ont dévasté toute une région, ils céderont pas, d'ailleurs c'était des bombes américaines déjà, ils céderont pas face aux menaces de Trump. Par contre, ce qui se passe, c'est que la colonisation s'accentue en Cisjordanie, chose qui est vachement tue.
T'as des informations là-dessus?
Il y a Jénine, il y a...
Tulkarem
aussi, où... Ouais, il y a plein de villes comme ça où des habitants sont obligés de fuir les massacres. Et ça, par contre, on n'en parle pas du tout sur les médias.
Les derniers chiffres qui ont été sortis là-dessus, c'était 40 000 déplacés de force, 40 000 déplacés internes. C'est Jordanie, est-ce que ça a augmenté et où est-ce qu'on en est?
Ça a sûrement augmenté, j'ai pas les chiffres en tête. Mais ce qui est certain, c'est que la colonisation s'intensifie en Cisjordanie, que les Palestiniens doivent faire de plus en plus face à une répression coloniale, mais aussi à une répression de l'autorité palestinienne qui les empêche aussi de résister face à cet envahissement.
Dernière chose, par rapport à Palestine vaincra, est-ce que tu as des contacts avec eux? Je ne les ai pas vus là. Comment ils prennent la dissolution du collectif?
J'ai pas de contact avec eux, mais ce qui est certain, c'est que la lutte continue et que malgré les dissolutions, malgré les coups qu'on prendra, on n'arrêtera jamais de lutter pour la liberté du peuple palestinien.
Est-ce que toi, personnellement, à Urgence Palestine, il y a eu des menaces proférées par des organisations sionistes françaises de porter plainte contre vous, demander votre dissolution, surtout qu'il y a des liens entre les organisations sionistes françaises et le ministère de l'Intérieur et le gouvernement français en général? Est-ce que vous avez des infos comme quoi on voudrait vous dissoudre?
La dernière info qu'on avait eue, c'était Julien Oudoul qui prononçait notre dissolution, qui voulait qu'on soit dissous à l'Assemblée. Depuis, nous, on n'a pas eu de nouvelles de ce côté-là, mais on sait qu'on reçoit beaucoup de menaces de la part des groupes sionistes.
Ok, merci. Du coup, je suis avec une camarade du collectif pour Georges Ibrahim Abdallah. Question par rapport à la manifestation, comment tu as vécu la manif et pourquoi c'était important pour toi d'y être? Est-ce qu'il va y avoir plus de liens à partir de maintenant entre la lutte palestinienne et la lutte pour la solidarité avec la Palestine et celle avec le Kurdistan, parce qu'il y en avait très peu avant? Et ensuite, surtout, quelle suite pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah? Pour rappel, cette semaine, sa libération a été reportée à juin 2025.
Donc moi je parle du nom de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. On était aujourd'hui dans un cortège palestinien pour la Palestine, pour la libération de la Palestine et pour la libération de notre camarade Georges Abdallah. son combat qui est anti-impérialiste, anti-fasciste et anti-sioniste. On relie bien sûr la libération de la Palestine comme une lutte anti-impérialiste et elle se relie avec toutes les luttes anti-fascistes dans le monde entier. Si on lutte aujourd'hui pour la libération de George Abdallah, c'est puisqu'on y croit que la Palestine, la libération de la Palestine est un projet de tous les militants anti-fascistes du monde entier, puisque la nature du colonialisme qui se déroule en Palestine est un colonialisme collectif, ça veut dire tous les États impérialistes, y compris la France, ils jouent un rôle dans le financement, dans le soutien inconditionnel à ce colonialisme pour imposer leurs intérêts dans la région. Donc nous aujourd'hui, en tant que militants antifascistes en France, on milite contre la fascisation de la société, contre ce processus de fascisation ici en France et aussi son incarnation dans notre région par le colonialisme sioniste. Donc aujourd'hui aussi, on était là pour dire que on a eu une demi-victoire hier par la libération de notre camarade qui était confirmée par la cour d'appel. Mais on dit aussi que le combat ne finira pas. On continuera le combat pour que le 19 juin, notre camarade soit libéré et retournera chez lui au Liban.
Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ? Pour rappel, il devait y avoir deux rassemblements et ils ont été interdits. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont été interdits ? Est-ce que vous allez appeler à d'autres manifestations ?
Bien sûr, comme on s'est dit que là, de toute façon, nous, avant jeudi, on disait que le combat va continuer, puisque même s'il y a libération, on continuera le combat jusqu'à l'application de la libération, ça veut dire jusqu'à le retour de notre camarade chez lui. On est en phase de répression, comme on dit, il y a un processus fasciste, on est en plein processus dedans, ça veut dire qu'il y a une répression contre tous les mouvements de solidarité avec la Palestine. On le voit avec la dissolution de Palestine vaincra, on le voit avec toutes les condamnations de tous les militants qui militent pour la Palestine, pour un mot comme Intifada, on trouve des camarades qui sont condamnés. Et aussi, on est contre la répression qui s'impose à la campagne unitaire aussi ici à Paris, en Ile-de-France, par l'interdiction de tous les rassemblements qui étaient en solidarité avec notre camarade Georges Abdallah. Ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, notre présence ici dans cette manif, c'est pour dire qu'on ne lâchera rien. On continuera le combat jusqu'à la libération de notre camarade.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur 106.3 et on continue avec un petit pot pourri de choses glanées ça et là chez Blast et Ashton.
On se rappelle que le 20 janvier dernier, pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le multimilliardaire Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avait très tranquillement effectué un salut nazi. On se rappelle aussi que de nombreux médias s'étaient empressés, aux États-Unis comme en France, de minimiser l'extraordinaire gravité de cette démonstration, en se demandant par exemple s'il s'agissait réellement d'un salut nazi, ou si ce n'était pas plutôt, comme l'avait envisagé France Info, un geste maladroit. Bien évidemment, ce refus de nommer de tels gestes pour ce qu'ils sont favorise leur répétition. Et la semaine dernière, à Washington, lors d'une conférence réunissant le gratin des extrêmes droites américaines et européennes, à laquelle devait notamment assister Jordan Bardella, président du Rassemblement National, ex-Front National, c'est l'idéologue Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui a à son tour fait un salut nazi dans le plus grand des calmes.
Ça fait beaucoup là, non ?
Mais là encore, le premier réflexe de la presse et des médias dominants a été de minimiser la gravité de ce geste. Le journal Le Monde, par exemple, a d'abord considéré que Bannon avait fait, je cite, « ce qui ressemblait à un salut nazi » avant de se raviser et de constater qu'il s'agissait bel et bien d'un geste nazi. Ouvrons ici une parenthèse pour relever que Jordan Bardella, de son côté, n'a pas eu la moindre hésitation. Parfaitement conscient que ses complaisances médiatiques lui offraient une occasion inespérée d'apparaître par contraste comme quelqu'un de tout à fait raisonnable, il s'est empressé de publier un communiqué expliquant que dans la mesure où un participant s'était permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie, il avait quant à lui pris la décision immédiate d'annuler sa participation à la conférence de Washington.
C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis.
Bien évidemment, Bardella s'est bien gardé de préciser que le participant en question avait été invité en 2018 à un congrès du Front National, où il avait fait le même salut, sans que personne à l'époque ne s'en émeuve au sein de ce parti cofondé par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien.
Let them call you racist.
Laissez-les vous appeler raciste.
Let them call you
Laissez-les vous appeler xénophobe.
Let them call
Laissez-les
you
vous appeler
nativist.
Nativiste. Portez cela comme un badge d'honneur. Parce que chaque jour, nous devenons plus forts et eux s'affaiblissent.
Fermons la parenthèse et revenons à Elon Musk qui, lorsqu'il n'est pas occupé à faire un salut nazi, fait tout ce qu'il peut pour soutenir l'AFD.
Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany.
L'Alternative pour l'Allemagne, ce parti d'extrême droite allemand dont l'un des principaux responsables trouve problématique qu'Adolf Hitler soit considéré comme le mal absolu et a été condamné au mois de mai dernier pour avoir employé un slogan nazi. Ce soutien sans faille du milliardaire américain semble favoriser l'ascension de l'AFD. Lors des élections législatives de dimanche dernier en Allemagne, elle a presque doublé son score de 2021, devenant de fait le second parti du pays, derrière la CDU, l'Union chrétienne démocrate, qui a remporté ses élections avec moins de 30% des voix. Ce dernier résultat constitue pour la CDU une performance médiocre, mais Emmanuel Macron s'est tout de même empressé de féliciter son chef pour cette victoire. Car lorsque la droite allemande remporte un scrutin avec un peu moins de 30% des voix, le chef de l'État français considère que c'est un succès mérité, alors que quand la gauche française remporte des élections législatives avec plus de 30% des voix, Macron préfère, comme il l'a fait l'an dernier, lui confisquer cette victoire pour installer un gouvernement de droite que certains ministres entraînent toujours plus loin vers l'extrême droite. Le 16 février dernier, plusieurs dizaines de néo-nazis ont attaqué une conférence antifasciste dans le 10e arrondissement de Paris. Ils ont poignardé un jeune militant de la CGT et sont repartis en criant « Paris est nazi » et « Lyon est nazi aussi ». Le ministre de l'Intérieur de François Bayrou, Bruno Retailleau, qui ne rate jamais une occasion de se présenter comme le champion de l'ordre et de la sécurité lorsque cette posture lui permet d'incriminer l'immigration, s'est cette fois-ci soigneusement abstenu de commenter cette attaque d'une brutalité inouïe.
Cette question s'adresse à Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur. Comment ne pourrait-il pas se sentir légitime lorsque des médias et des responsables politiques tentent de justifier les saluts nazis d'Elon Musk ?
Ce n'est que deux jours plus tard qu'il s'est enfin décidé à réagir, après avoir été apostrophé à l'Assemblée nationale par un député écologiste qui lui reprochait son silence et auquel il a répondu
« S'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence, c'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. »
Lorsque des néo-nazis poignardent un militant antifasciste, le ministre de l'Intérieur réussit donc l'exploit, lorsqu'il se décide enfin à réagir parce qu'il est apostrophé par un parlementaire, d'incriminer ce qu'il appelle l'ultra-gauche, et cela rappelle bien sûr un précédent. Lors de de son premier mandat, après l'assassinat d'une jeune militante antifasciste américaine par un néo-nazi en 2017, Donald Trump avait de la même manière renvoyé dos à dos fascistes et antifascistes en condamnant des violences venant, je cite, de plusieurs côtés et en ajoutant qu'il y avait des gens bien dans les deux camps. Reconnaissons cependant qu'il arrive que Bruno Retailleau se montre beaucoup plus réactif que dans les moments où il oublie de condamner des violences d'extrême droite. Le 19 février dernier, par exemple, il a immédiatement réagi sur le réseau social d'Elon Musk à la validation par le Conseil d'État du non-renouvellement de l'autorisation d'émettre sur la TNT accordée à C8, chaîne de télévision appartenant au très réactionnaire groupe du milliardaire Vincent Bolloré. C8 avait trouvé son public, sa disparition du paysage audiovisuel l'a prive d'un espace d'expression, ajoutant qu'il apportait tout son soutien aux nombreux salariés et intervenants qui ont perdu leur emploi. Par l'effet d'une très heureuse coïncidence, ces propos de l'un des plus hauts représentants de l'État français font écho, presque au mot près, à ceux des médias du groupe Bolloré, qui se répandent depuis le 19 février en imprécations dénonçant, je cite, « une volonté politique de faire taire les opinions discordantes, c'est-à-dire une censure étatique ayant pour conséquence la perte d'emploi pour 400 salariés ». La réalité, comme souvent, est ici assez différente de ce que prétendent ou suggèrent les collaborateurs de Vincent Bolloré et Bruno Retailleau. D'abord, et comme l'a fort justement rappelé le journal Le Monde le 24 février dernier, rien, sinon des questions de rentabilité économique, ne s'oppose à ce que C8 continue d'exister sur le câble, le satellite ou Internet. Pour le dire autrement, le milliardaire Bolloré aurait tout à fait pu décider de sauver les 400 salariés de cette chaîne, qui auraient donc pu continuer à émettre. Mais il a fait le choix inverse, car cela n'était pas rentable. C'est donc lui et non l'État qui est responsable de ce que Retailleau appelle sa disparition de l'audiovisuel public et de la perte d'emploi que les collaborateurs du groupe Bolloré imputent faussement à une volonté politique de l'État français. Ensuite, et surtout, le non-renouvellement de l'autorisation d'émettre sur la TNT accordée à C8 n'est en aucun cas une censure. Si cette chaîne a été si lourdement sanctionnée, c'est, comme l'a écrit le Conseil d'État dans sa décision du 19 février, en raison de ses manquements réitérés au cours des dernières années à ses obligations légales et conventionnelles. C'est parce qu'elle n'a pas respecté ses obligations légale, en dépit des multiples avertissements qui lui avaient été adressés, que C8 n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation d'émettre. On s'étonne donc que Bruno Retailleau, qui aime se poser en champion de la loi et de l'ordre, présente la sanction de ce refus d'obtempérer comme une atteinte à la liberté d'expression. Puis on se rappelle que l'une de ses premières priorités, lorsqu'il a été nommé au ministère de l'Intérieur, a été de décréter que l'état de droit n'était, je cite, « ni intangible » ni sacré.
On avait dit plus jamais ça, on a déjà zappé. On a dédié plus d'un message dans nos canapés. Les avertis, c'est pas des sages, on va pas se braquer, ouais. On avait dit plus jamais ça, ouais, mais ça, ça fait. S'ils ont la force de frapper, est-ce qu'on a les gens? Combien s'en tapent ou font allégeance? Mais qu'est-ce qu'ils font de si mal? Ils sont pas méchants, Marty, tu pas les gentils. En tout cas, pas les gentils. Nos capitalistes, bien qu'ils rivalisent, kiffent les fascistes, trichent et pactisent, niquent, c'est facile. Ils ont la tira et l'armada, pendant qu'on tira et on voit qu'ira et boit tes larmes à toi. On a déjà trop attendu, on avait dit jamais. Si tu rêves qu'on a le temps, ils ont déjà gagné. Si tu laisses les bras tendus, à quand les croix gammées? Oh, si tu te lèves pas maintenant, tu te lèveras jamais.
Je veux continuer avec l'ambiance dans ce pays qui nous inquiète fortement, avec à la fois le ministre de l'Intérieur, mais d'autres ministres, ainsi que des caricaturistes, qui lancent une campagne de déchéance de nationalité contre Rima Hassan, qui sont des campagnes d'un racisme crasse, qui visent encore une fois à faire taire et à réduire au silence les voix pour la paix du droit international et pour la défense du peuple palestinien, avec donc des menaces de déchéance de nationalité qui rappellent ce qui est fait aux Palestiniens depuis maintenant longtemps, depuis la Nakba, c'est-à-dire de réduire les Palestiniens à un statut d'apatride. Je rappelle que c'est interdit pour le droit international et que Rima Hassan ne faisait que défendre le droit international. Et je crois que par son engagement universaliste pour l'égalité entre les êtres humains, Rima Hassan a bien plus hérité de la Révolution française que Bruno Retailleau. Je le dis avec force parce que ce qui est en train de se passer devrait toutes et tous nous inquiéter, d'autant que vous aurez remarqué le nombre de ministres qui réagit pour participer à cette campagne avec des appels qui sont extrêmement graves, mais que personne, absolument personne n'a réagi quand Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, et Ercilia Soundé et toute la Mélenchonie, je reprends, sont menacés dans le média Tribune Juive avec ces mots, et moi je ne vois pas d'autres réponses que te foutre une balle dans la tête de Madame Soudé, Monsieur Coquerel et toute la Mélenchonie. Évidemment, aucune réaction de Yaël Braun-Pivet, qui, pourtant, je le rappelle, réagissait lorsqu'il y avait des autocollants lors des manifestations contre la réforme de la retraite à 64 ans sur des permanences de députés Renaissance, mais là n'a pas un mot face à des menaces de mort explicites. Et en plus de cela, Ali Duhara, qui observait un contrôle d'identité comme il a le droit de le faire comme député, a eu pour réponse des policiers « Si je te tasse, tu vas faire quoi ?» avec le préfet de police, M. Nunez, qui s'est empressé d'aller soutenir les policiers qui se rendent coupables de tels faits. Je veux alerter sur ce que ça veut dire dans le pays, d'autant que vous avez vu que dans cette ambiance, vous avez par exemple, il y a deux semaines, 30 nervis armés et cagoulés qui ont été attaqués, une projection antifasciste à Paris en criant « Paris est nazi », là aussi sans aucune condamnation du ministre de l'Intérieur, que la semaine dernière à Angers, c'est des étudiants qui rentraient tranquillement chez eux et qui se sont fait tabasser par une bande, là aussi, de nervis pour avoir refusé de faire des saluts nazis, et que maintenant, il faut que cette ambiance anti-républicaine s'arrête, et donc, je veux redire avec force à quel point ce deux poids deux mesures est insupportable.
Bon, faut qu'on parle vite fait du bordel actuel parce que ça va pas du tout cette affaire. Alors j'imagine que t'as vu Elon Musk faire des saluts nazis devant le monde entier à la petite sauterie de son copain orange Donald Trump pour son investiture à la présidence du monde. Est-ce que ça serait pas un signal de plus qui indique que tous ces abrutis sont complètement en roue libre, faute d'y foutre un bâton de temps en temps? Ouais, j'entends encore les discours de ces gens qui m'expliquaient que les antifascistes ils sont obsessionnels, qu'ils se battent contre des chimères et que c'est un truc qu'on laisserait plus arriver de toute façon. Bon, bah tu feras gaffe parce que pendant que tu te battais pas, les chimères elles ont pris leurs aises, elles sont rentrées avec leurs bottes pleines de merde et là elles commencent à les foutre sur la table. Du coup, tu me feras signe quand on aura dépassé le cap de l'obsession et qu'on sera passé au moment où on les laisse pas arriver de toute façon. T'inquiète, on sera pas rancunier, on va pas te faire l'affront de te dire qu'on t'avait prévenu. Tu seras bien trop occupé à se faire déporter. Enfin, en attendant, c'était un peu grossier son move à machin. Je crois qu'il a pas très bien compris le principe du dog whistle, votre pote, là. Le dog whistle, c'est un sifflet pour les clébards. Normalement, il y a que qui l'entendent. C'est quand tu fais dans le langage un peu codé pour donner des gages à tes copains chiens, mais que tout le monde crame pas direct non plus. Bon, bah l'autre, le plus intelligent du monde, là, il a pas compris. On lui a dit tu fais discret, c'est juste pour dire aux copains qu'on est là. Et lui, bah je sais pas, ça a dû rencontrer les obstacles en cours de route. En tout cas, c'est pas arrivé jusqu'en haut, le type il a fait un salut nazi devant la terre entière. Ouais, on a vu plus discret. Alors tu vas me dire, oui, bah contrairement aux autres qui font ça en soum-soum, lui au moins il assume, c'est une merde, mais c'est une merde courageuse. Bah d'accord, mais non, pas trop du coup. Parce qu'à aucun moment il assume derrière. Il explique que c'est ses adversaires qui veulent lui nuire, que lui était juste en train de danser à Macarena. Mais le pire, c'est pas que ces tordus soient pas foutus d'assumer leur penchant pour l'autoritarisme raciste au relent consanguin, ça on a plutôt l'habitude. Non, le pire c'est que dès le lendemain, des médias du monde entier ont titré des trucs du genre « Est-ce que Elon Musk a fait un salut nazi ?» Bah écoute, si c'est une vraie question, nous on a la réponse, hein. Disons que c'est difficilement discutable dès lors que t'as un poil d'honnêteté intellectuelle. Après, ça l'est peut-être un peu plus quand t'as des actionnaires réactionnaires et des proprios qui vérifient que tu racontes rien qui puisse nuire à leur projet conservateur. Enfin bon, les mecs depuis des semaines, ils nous balancent que tout le monde est antisémite, à raison ou à tort, ça on pourrait en discuter, mais pas là, non. Là, il y a un facho assumé qui fait des saluts nazis en mondovision et tous ces petits troubadours se relaient pour t'expliquer que, ah, quand même, faut arrêter de voir le mal partout. Et puis alors, c'est pas le seul chelou de son boys club au mec orange. Il y a aussi un ancien bidas reconverti en présentateur télé qui est pas mal gratiné dans son genre. Puis là, il s'est retrouvé secrétaire d'État à la bagarre. Ouais, ils appellent ça la défense, mais tu connais, c'est les statès. Alors bon, lui, il se sent tout à fait légitime parce qu'il a déjà fait la bagarre. Après, c'est vrai que toute la dimension secrétariat d'État, ça lui parle un peu moins. Mais bon, il est pas plus con qu'un autre, hein, il apprendra sur le tas. C'est lui qui a dit qu'il voulait pas de gonzesses dans l'armée. Parce qu'à ses yeux, c'est bien pour faire du tricot, des gosses ou des crises d'hystérie, mais quand s'agit de garer la Jeep, ça va plus du tout. Et puis surtout, comme il les voit que comme des sacs à foot, il se dit que ça va distraire les bonhommes là-bas. Parce que pendant qu'ils seront en train de chasser la donzelle, ils sont pas en train de massacrer les civils. Et ça, ça fait pas gagner les guerres, figure-toi. Il y a Zucker aussi dans le crew, c'est le boss de Facebook, Insta, Meta, celui qui faisait le courageux tant qu'il risquait rien, mais qui a retourné sa veste dès qu'il a flairé un début d'odeur de pâté, et qui a retiré son pantalon aussi, ouais. Mais faire chier les minorités, ça leur suffit pas. Alors il a aussi viré de ses réseaux tout ce qui était fact-checking, et il a dit qu'il fallait libérer l'énergie masculine dans l'entreprise et y valoriser l'agressivité. Donc les types qui contrôlent les plus gros outils de communication du monde sont soit des laquais masculinistes, soit des gros nazis presque assumés. Ils essaient, avec leur force de frappe incalculable, de faire chuter les pays un par un vers les régimes d'extrême droite qui leur excitent la nouille. Et pendant qu'ils font ça, il y a des abrutis qui se disent patriotes des pays en question qui les supplient de venir y faire de l'ingérence. Ouais, bardez pas là, on parle de toi là. Ceci dit, petit aparté, on sait très bien que nos patriotes locaux, c'est surtout le fait qu'ils détestent tout ce qui leur ressemble pas qui les rassemble. D'ailleurs, ils détestent bien plus les autres qu'ils aiment les pays qu'ils prétendent défendre. Fais-moi confiance, ils étaient pas franchement hostiles au fait de parler allemand hier pour convenir à leur fureur, ils seront pas non plus complètement opposés au fait de parler anglais demain si c'est la langue de son successeur. Fin de l'aparté. Donc, on a nos petits proprios de réseaux sociaux là, qui laissent pulluler de la fake news en masse quand ils encouragent pas carrément le projet. Quand ils sont pas occupés à tendre le bras directement, ils se contentent d'y faire activement la promotion des pires théories du complot qui restent la porte d'entrée la plus efficace vers l'antisémitisme. Et nous, de notre côté, dans le gouvernement français, si on n'est pas complètement sur du tapis rouge, y en a quand même pas un possédant ne serait-ce qu'un semblant de pouvoir d'action qui essaie un peu sérieusement de les empêcher de faire ça.
Elon Musk, qu'on voit ici à l'image, regardez, le milliardaire qui est désormais l'un des bras droits du président élu.
Madame de Castelbajac.
Oui, il fait une selfie avec une photo.
Et d'ailleurs, ce cher président, et qui est Manu Lamarave, il leur fout pas un obstacle sur le trajet à ces mange-merdes, mais par contre, leur délire un peu viriliste de préparation au combat, là, ça lui parle de ouf. Il y a pas si longtemps, il avait tapé tout l'oseille de l'éducation populaire pour bazarder ça dans un projet d'encasernement de la jeunesse qu'il avait appelé SNU, mais qui était pas le retour au service militaire, s'il vous plaît, c'était le service national universel.
Il était prévu au départ que cette généralisation se fasse en 2026, mais le président de la République m'a demandé d'aller plus vite, et donc je suis en train de travailler sur un scénario qui nous permettra de généraliser plusieurs années avant la date prévue.
Une sorte de colo un peu pourlingue organisé par des bidas qu'on avait rien à foutre et des animes qui avaient peur de laisser les mômes seuls avec des bidas qu'on avait rien à foutre. Ce genre de séjour à dos où tu remplaces les soirées blind test par la Marseillaise au garde à vous, le VTT de descente par des levées de drapeaux en plein cagnard, et les esquives nocturnes pour aller faire des caps et fumer des clopes en scred par des parcours de santé au petit-déj avec un type mal luné qui te gueule dessus.
À mon commandement ! Garde à vous !
Alors ils avaient dit pas de politique là-bas, mais bon, avec les drapeaux français, les champs belliqueux et les uniformes, considérer que c'était pas politique, c'était déjà un positionnement politique assez marqué pour le coup. Les animes, ils se disaient, de toute façon, si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, alors le mieux c'est quand même que ce soit moi. Alors oui, c'est une défense un peu vichiste, mais bon, il y avait surtout plus que là qu'il y avait de l'oseille. Et les bidas, eux, ils étaient obligés, mais ils en avaient rien à foutre, parce que les colomoisies avec des ados qui s'emmerdent, c'est pas le meilleur endroit pour recruter les futurs tueurs d'élite. Bref, c'était un truc organisé avec le cul, qui posait pas mal de soucis juridiques et qui coûtait un bras, mais c'était censé faire du brassage social, favoriser l'engagement, l'émancipation, la flûte habituelle quoi. Mais là, coup de théâtre, après que le Sénat ait supprimé les financements de cette merde, dans un heureux hasard de calendar, le président a annoncé la nécessité de faire gonfler les rangs de l'armée. Alors, est-ce que c'est pour tenter de dissimuler le fiasco de ce projet qui puait la merde et que personne n'a jamais soutenu ? Attention, je dis personne, mais la plupart des assos d'Éduc Pop avaient signé le torchon, ça aurait s'en rappeler de ça. Est-ce qu'on est en train d'assister un peu plus clairement au retour au service militaire, et ce, dans le but d'envoyer nos gosses se faire laver le cerveau par des excités de la frontière au pied d'un drapeau colonial ? Et si oui, c'est pour les envoyer se faire buter où, les gamins, là ? C'est pour tirer sur les prolos de quel pays ? Au nom de quel planqué qui prendra pas les balles ? Dans quel but ? Au nom de quelle idéologie ? Ah ça, bah, va savoir. Mais partant du principe que la bande à milliardaires français a le contrôle de l'information qui circule dans les médias de masse et que la bande à milliardaires américains a le contrôle de celle qui circule sur les réseaux sociaux, s'il y a bien un truc dont tu peux être certain, c'est que ça va commencer à être laborieux si tu veux savoir des trucs. Ceci dit, reste quelques médias indépendants, hein. Tu devrais peut-être pas trop hésiter à les soutenir, parce que ça sera pas du luxe au vu de l'ambiance qui se profile. Alors on peut regarder tout ça se produire sans bouger, les laisser encaserner les gosses, les armer jusqu'aux dents et les envoyer se faire buter pour des intérêts qui sont pas les leurs. On peut, hein, rester là comme des carpettes en attendant qu'ils s'essuient les bottes sur nos petites gueules de lobotomisés pendant qu'on les supplie de nous faire l'honneur de nous pisser dessus. On peut les laisser faire de nous l'outil qui leur servira à opprimer le suivant jusqu'à le briser pour qu'ils puissent devenir un outil de plus qui servira à en briser un autre et que l'opération se répète encore et encore et
encore. Et encore.
On peut, ouais, effectivement, on peut. On peut aussi se lever tant que c'est encore possible. Ah, on n'a pas leur force de frappe, évidemment, mais on a la nôtre. On sait même pas ce qu'elle vaut, et on est d'ores et déjà en train de capituler, à même pas essayer de s'en servir. On se laisse endoctriner, on les laisse vendre leur merde aux gosses, mais il a jamais réellement été question d'émancipation, d'engagement, d'autonomie. C'est les concepts qui les terrifient, parce que s'ils étaient ne serait-ce qu'envisagés, ça remettrait en question leur existence. Si nos libéraux autoritaires fascisto-compatibles foutent les gosses au garde à vous, c'est surtout pour s'assurer qu'ils pourront concevoir tous ces objectifs uniquement dans le cadre qui leur est permis. Le cadre des dominants, celui qu'ils ont défini, celui qui servira servira leurs intérêts. Sans réussir à convaincre que s'engager, c'était se fliquer soi-même, fliquer ses congénères, comme si les autocuffs étaient moins des bâtards que les autres. L'émancipation, l'autonomie, l'engagement, si on est honnête, c'est bien plus la révolte populaire imparfaite et ingérable que le fait de la réprimer violemment sous les ordres de ceux qui la craignent. L'engagement, c'est pas l'obéissance à l'ordre injuste et criminel, c'est l'insurrection face à la brutalité des privilégiés qui sont prêts à désigner n'importe quel bouc émissaire pour s'assurer de jamais devoir renoncer à leurs privilèges. Fais-moi confiance, ils ont aucune intention de foutre quoi que ce soit d'émancipateur dans le crâne des gosses, pas plus que dans le nôtre. Le projet, c'est la soumission, la léthargie, la docilité.
Parce que c'est notre projet !
Et c'est pas le nôtre, ça. Laisse pas passer ce qui est pas dans ton intérêt. Parle, bouge, montre. Fais ce que tu veux, mais fais. Agis dans des assos, agis en autonome, agis où tu veux, comme tu veux. Construis, casse, bloque, sabote, grève. Défends-toi, parce que dans le fond, c'est que de ça dont il s'agit. C'est de la défense, de l'autodéfense. On a des modes d'action variés, de quoi nous rendre ingérables si on veut. On a un pouvoir d'action considérable, mais comment on fait pour se sentir aussi impuissant? Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont convaincu? Est-ce que t'as fini par croire qu'on pouvait pas gagner? Et si c'était effectivement le cas, est-ce que ça justifierait qu'on essaie même pas de leur rendre la tâche plus difficile? Si le combat est déjà perdu, t'es sûr que c'est une raison pour pas essayer de laisser une balafre avant de tomber? Sérieux, qu'est-ce qui t'empêche dans le fond? T'as l'impression que c'est trop dur de se battre seul? Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est plus dur que ce qui va se passer si on se bat pas dès maintenant, seul ou pas? Et puis en vrai, on est combien à se sentir seul là-dedans?
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info. True.